Place au dossier de Radio Okapi, le programme de rétablissement des liens familiaux du CICR. On en parle dans ce journal. Une jeune fille de 19 ans a retrouvé sa famille lundi dernier à Rutshuru au Nord Kivu après 10 ans de séparation. C'est grâce à la campagne des recherches au moyen de photos que son père l'a identifiée sur une affiche du CICR. Un dossier proposé par Rosalie Zawadi.
Il faut ouvrir mon cœur pour voir à quel point je suis joyeux, dit ce père qui retrouve sa fille immaculée Emma 10 ans après. C'est lorsqu'il était en déplacement à Kiwanja, fuyant l'insécurité dans son village d'Ngwenda, que l'enfant s'était perdu. Il explique que c'est grâce à la campagne des photos tracing qu'il a identifié sa fille sur une affiche.
Lorsqu'on a perdu notre enfant, on partait le chercher un peu partout à Nyanzale, poser des questions aux connaissances et familiers, sinon pas de ses nouvelles. Et c'est là pendant un mois. Ça fait 10 ans qu'on s'est séparés. C'est l'infirmier qui m'a appelé et me montre sa photo. C'est ma fille, c'est mon enfant. Je suis content de la retrouver car elle regagne son toit paternel. Vraiment, vous avez beaucoup contribué pour notre retrouvaille. Merci beaucoup.
Merci.
De Kiwanja, où son père a perdu ses traces, c'est dans un camp des déplacés à Kanyaruchinya, près de Goma, qu'une dame l'a recueilli. Elle l'a ramené avec elle à son retour dans sa localité de Kiroje, un groupement Kibumba. Et c'est là, à une 50aine de kilomètres de ses parents biologiques, qu'il a passé 10 ans. C'est avec une joie immense de voir la fille retrouver enfin sa famille biologique et une peine de devoir la laisser partir que la mère qui l'a gardée lui fait ses vœux.
Lorsqu'elle tombait malade, je prenais soin d'elle, je l'habillais. C'est une fille qui se porte très bien aujourd'hui, qui a grandi. Elle peut même se marier. Elle peut donc partir en paix. Vous appellerez l'agent de la Croix-Rouge de mon village pour qu'il m'informe si elle est bien arrivée.
Mathias Kempf, délégué au rétablissement des liens familiaux, explique que la campagne des photo tracing est la dernière alternative qu'utilise le CICR pour retrouver les familles des enfants séparés suite au conflit.
On fait une telle campagne avec un poster. Dans ce cas, avec 32 portraits d'enfants, c'est quand on n'a vraiment pas d'autres moyens qui nous restent pour chercher les familles de ces enfants. Donc, dans ce cas, on a déjà essayé toutes les pistes pour retrouver des membres de famille et comme ça n'a pas abouti, on s'est décidé en 2017 de lancer cette campagne.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
On passe à la revue de presse, une compilation de Folquin Consomoussière Africa. Bonjour Folquin.
Bonjour Pascal Massirika et bonjour à vous très chers auditeurs. Commençons cette compilation des journaux parus ce matin à Kinshasa avec le renouvellement du mandat de la MONUSCO à sa une forum des assises écrit, je cite, en renouvelant son mandat d'une année, le Conseil de sécurité chargé de la MONUSCO d'aider à la préparation des élections de décembre 2018, s'assurer qu'elles soient organisées avec les conditions requises de transparence, de crédibilité, d'ouverture et de sécurité. Au terme donc de cette résolution de 22 pages, rapporte le quotidien, la MONUSCO devra apporter une assistance technique et logistique pour soutenir le processus électoral. Elle devra également appuyer la formation des policiers congolais dans la perspective de la sécurisation pour maintenir professionnellement l'ordre public les jours du vote. Pour que ça paraisse, explique l'actualité précédée, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, devra soumettre à l'ONU des plans de contingence pour pallier à toute éventualité. Aussi, cette précédée révèle que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prié dans cette résolution 2409 sur la RDC, le secrétaire général de l'ONU, de fournir un appui politique à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre au rétablissement de la confiance entre les différentes parties et à la préparation des élections en usant de ses bons offices. Mais on parlait déjà de fraude électorale à ce sujet. Écrit 77.cd, la centrale électorale de l'AMP rejette la paternité d'un document qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une préparation à la tricherie électorale avec l'insertion par scannage d'une liste d'une centaine de personnalités dans le cercle vert au cours d'une conférence de presse tenue hier mardi ici à Kinshasa, en son siège, rapporte ces médias en ligne, le CCE a démenti être l'auteur de ces documents qu'il qualifie de brûlots, informations relayées notamment par Forum des As. Quoi qu'il en soit, les Palou tient à sa candidature à la présidentielle et ici Adolphe Mouzitour prend acte de la volonté d'Antoine Gizenga. Toutefois, souligne Forum des As, ses cadres historiques du parti Lumumbiste unifié précise qu'il serait dans l'obligation de prendre ses responsabilités au cas où sa formation ne s'assumerait pas pour la magistrature suprême. Fils maison, Adolphe Mouzitou a pris acte de la décision du secrétaire général de mettre fin à ses fonctions de secrétaire permanent adjoint du Palou. Il l'a fait à travers une lettre datée du 25 mars 2018 dans la perspective de ses élections de décembre. L'autre question qui fâche, c'est la nationalité. Pour ce faire, le parquet général de la République ouvre une information judiciaire à charge de l'ancien gouverneur de l'Est de province du Katanga. Et à lire Forum des As, le président de la plateforme Ensemble pour les changements doit répondre de ces nouvelles incriminations devant les magistrats déjà désignés, apprend-on des mêmes sources, sujet à lire notamment à la une d'actualité précédée. Ce chapitre ouvre donc à coup sûr une perche politico-précédée, citant un article publié par les moniteurs belges en date du 15 juin 2010. On aperçoit les noms de l'Oseke Nemanema Tarsis sur une longue liste des personnes naturalisées belges, conformément à la loi belge accordant des naturalisations. Les noms donc du docteur Tarsis, l'Oseke fait depuis ce mardi la une de l'actualité. C'est la suite à une plainte déposée contre le secrétaire général de l'UDPS, l'IMT Jean-Marc Kaboun, l'accusant d'avoir convoqué frauduleusement les congrès de l'UDPS.
L'invité. Le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme a participé à la 37e session des droits de l'homme à Genève en Suisse, où il a été question du dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme en RDC. Abdulaziz est l'invité de Radio Okapi. Il est interviewé par Jean-Pierre Elali Koko.
Monsieur Aziz, bonjour.
Bonjour, monsieur Elali.
Vous avez été à Genève où il y a eu un dialogue interactif sur le recours illégal et disproportionné de la force en République démocratique du Congo pendant une certaine période. Quels sont les faits saillants que nous pouvons retenir de ce qui s'est passé à Genève?
Oui, en effet, je reviens de Genève où j'avais accompagné la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Leila Zerougui, qui a participé à la session interactive, au dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme en RDC à l'occasion de la 37e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et les participants sont revenus longuement sur les éléments d'information que nous avons communiqués à la presse et sur lesquels nous nous sommes prononcés largement au cours de la présentation de notre rapport annuel en janvier 2017, mais également sur la situation du Kasaï, mais également la répression des manifestations convoquées par les partis politiques et surtout les dernières qui ont été convoquées par le CLC. Des préoccupations ont été soulevées quant à la détérioration de la situation des droits de l'homme dans le pays, le Kasaï, le Nord Kivu, disons l'Est du Congo en général, mais également les répressions violentes des manifestations appelées par les partis politiques et la société civile en RDC au moins au cours de la période que nous avons indiquée. Mais par ailleurs, les membres du Conseil se sont aussi beaucoup réjouis que le gouvernement ait décidé de mettre en place cette commission mixte qui a enquêté sur les violences liées aux manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018.
Oui, restons toujours sur ce qui s'est passé à Genève. Et vous l'avez révélé ici à la presse, peut-être ce n'était pas connu, que la ministre aux droits humains a déclaré que le gouvernement congolais a décidé de la levée de l'interdiction des manifestations publiques.
Tout à fait. Cette annonce a été faite à la tribune du Conseil des droits de l'homme à l'occasion du dialogue interactif mardi soir. Je vous invite à aller sur le site de UN Web TV et vous pourrez voir la session consacrée au dialogue interactif sur le Congo. et la déclaration de Madame Mouchebekwa, qui effectivement a partagé avec l'assistance la décision prise par le gouvernement congolais de lever la mesure d'interdiction de manifester pour des raisons liées au contexte électoral, disons. Donc, le gouvernement considère qu'il est important de créer les conditions pour que différentes sensibilités politiques puissent s'organiser en direction des prochaines élections.
Un fait remarquable lors de cette rencontre, c'est le fait qu'on puisse, ici en République démocratique du Congo, avoir une commission mixte d'enquête, et cela a été fait. Et maintenant, la grande question, c'est que cette commission a donné lieu à des recommandations, et parmi ces recommandations, il y a le fait qu'on pouvait avoir des enquêtes judiciaires. Pratiquement 2 semaines après, rien n'est fait au niveau du ministre de la Justice et aussi au niveau du procureur général de la République pour justement mener ces enquêtes judiciaires. Que peut alors faire le bureau conjoint à ce stade pour que les choses aillent plus vite?
Bon, je pense quand même qu'il faut peut-être un peu de patience. S'il y a une procédure de flagrance, oui. Mais nous parlons d'événements qui ont eu lieu le 31 et le 21, sur lesquels la commission a travaillé. Donc, c'est des faits qui ont eu lieu en décembre et en janvier. Comme vous l'avez vu, il y a des arrestations qui ont été menées. Et un jugement expéditif, avec célérité, a été fait, au moins à Mbandaka. Ce n'est pas une question de minutes, ce n'est pas une question de jours, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est une affaire assez sérieuse qui concerne les pertes en vies humaines.
Et terminons par les tendances de votre rapport de février. Vous avez observé une certaine tendance à la diminution des cas de violation des droits de l'homme. À quoi est due cette régression?
Principalement, le nombre de jours. Comme vous le savez, février est beaucoup plus court. Donc c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, on a connu une répression le 25 février d'une ampleur moindre que ce qu'on avait l'habitude de voir. 2 morts, c'est beaucoup, mais on avait l'habitude d'en avoir plus. C'est déjà un premier élément d'explication. Les personnes qui avaient été arrêtées pour beaucoup ont été libérées. Je crois qu'il y a eu une petite accalmie au courant du mois de février.
Monsieur le directeur, Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Dieudonné Kabeyangalula, bonjour.
Bonjour Pascal Masirika, chers amis auditeurs, et à vous également, bonjour. Match amical international, défaite des Léopards devant les Taifa Stars hier au Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salaam, 0-2. 39e pays de football dans le monde et 3e en Afrique au classement FIFA de ce mois de mars, la RDC a perdu, désillusionnée par la 43e nation africaine, 146e au monde. Démoralisée par les conditions de préparation du voyage et des séjours, les Léopards de la RDC ont joué la figuration pour honorer un rendez-vous sans y avoir le cœur. Après une première mi-temps poivre sel, les Léopards ont laissé les contrôles des opérations Taifa Stars, qui logiquement ouvre les scores par une tête féroce de Bonne Ali Samantha sous la barre à la 74e minute. En fin de partie à la 88e, d'une frappe de gauche croisée qui finit sa course dans le petit filet gauche de Matampi, Yaya Chiza Ramadani double la mise et permet aux Taifa Stars de se racheter après la lourde défaite concédée la semaine passée en Algérie, 1-4. Les joueurs sont des millionnaires en culotte. S'ils viennent jouer en équipe nationale, c'est par patriotisme et non pour l'argent, lit-on sur des réseaux sociaux en réaction aux propos du ministre des Sports, Papi Nyango. Partiront ou partiront pas? Selon l'agence congolaise de presse, les Léopards football de moins de 20 ans de la RDC quittent Kinshasa ce mercredi pour Dar es Salaam, en Tanzanie, où ils seront reçus par leurs homologues, les Taifa Stars U20, samedi 31 mars, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Niger 2019. Le match retour interviendra le 20 avril prochain à Kinshasa. Ligue nationale de football, phase des play-offs, la suite de la compétition ce mercredi au stade Amani de Bounia. Montbleu sera face à Groupe Bazano, un match de la première journée, et à Kinshasa, Dragon Bilima accueillera Saint-Éloi-Lupopo. Coupe du Congo, début des préliminaires de la 54e édition dans la Ligue de football de Kinshasa. Ce mardi après-midi au stade Père Raphaël de la Quétule de Riov, Oseka domine Brothers 1-0, victoire au tir au but de la jeunesse sportive Tiangou face à l'Athletic Club Boudjana, 4-3 après la parité des 0-0. Élimination de l'IFC Mont-Amba par la jeunesse sportive Kinshasa au tir au but 2-4 après les nuls de 1 but partout. Ce mercredi, le dernier club Massina jouera l'FC Lumière et l'Académie Real de Kinshasa matchera à Sekouya.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 7h30.